Est-il possible d'éviter le scénario de stagflation craint par la Fed dans le contexte géopolitique et commercial que nous connaissons tous, sachant que des deadlines approchent quelque part autour du début du mois de juillet pour les accords commerciaux et aussi pour l'aspect géopolitique en cette semaine où l'inflation PCE est mise à jour? Légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun, ravi de vous retrouver toujours avec mon blazer bleu, comme je me suis présenté à Lausanne la semaine dernière. J'espère que cette conférence vous a plu. Les vidéos de la conférence ont été enregistrées, arrivent, elles seront séquencées. Vous pourrez visualiser la vidéo de la conférence qui vous a le plus intéressé. Alors, dans cette nouvelle édition du Top Gun, je reviens sur les... Alors, ça peut être vu comme un non-événement, eu égard au fait que cela n'a provoqué quasiment aucune réaction du marché. Et pourtant, la Fed n'a pas touché ses taux d'intérêt, mais a mis à jour ses projections macro, et autant vous dire qu'elle est pessimiste. Non mais, la Fed affiche probablement pour voir venir, probablement pour se protéger, probablement pour se donner de la marge, affiche un pessimisme que même les ardents défenseurs du bear market, en tout cas ceux qui jouissent des bear market, ne peuvent espérer mieux. Effectivement, la Fed envisage, d'ici la fin de l'année, un rebond significatif de l'inflation. Alors pour le moment, l'inflation temps réel ne le dit pas, les indicateurs avancés ne le disent pas, même s'il y a une petite surchauffe. Et ça va être intéressant d'ailleurs de voir déjà cette semaine, vendredi de cette semaine, ça doit être le vendredi, on sera peut-être le 27 juin je crois, je ne sais pas exactement, vous allez avoir justement la mise à jour de l'inflation PCE. Et il peut y avoir une petite surchauffe en version nominale, mais pas en version sous-jacente. Les services, tout ça, l'immobilier, c'est pas concerné par la guerre commerciale. En tout cas, c'est passionnant parce que la Fed s'inquiète, parce que la Fed le dit explicitement. Elle regarde la géopolitique, elle regarde les tarifs douaniers. Ils sont mentionnés explicitement. D'après elle, ce n'est qu'une question de temps avant que cela arrive dans l'inflation. Mais dans quelle partie de l'inflation? Est-ce que cela concernera l'inflation dite sous-jacente? Ça compte avec globalement, je trouve, des actifs risqués qui maintiennent une relative résilience. Oh oui, il y a toujours des séances de correction, des semaines parfois correctives, mais si vous prenez du recul, le mouvement de fond, et en particulier ce que nous avons vécu, depuis le début du mois d'avril, la résilience ne peut qu'étonner. Mais vous en connaissez une partie de la réponse, en tout cas à la question de savoir pourquoi, comment, puisque ce fut l'objet de ma conférence la semaine dernière. Alors, dans cette nouvelle édition du Top Gun que je vais essayer de faire courte, concise, première partie, je vous fais un topo complet sur la mise à jour des projections macro de la Fed. Ce n'est pas anodin. Elle n'a pas touché à sa politique monétaire non conventionnelle. Donc, le quantitative tightening continue. Il a été réduit significativement depuis le début de l'année, mais il continue. Deuxième partie, cette semaine, direct, les pieds dans le plat, direct dans le vif du sujet, l'inflation PCE est mise à jour. C'est un test important, elle concerne le mois de mai, un mois où on pense que les entreprises peuvent avoir commencé à passer des hausses de prix. Le PCE, je vous rappelle, c'est pas du flan, c'est pas du vent, c'est basé sur les données comptables. Donc là, au moins, on verra concrètement ce qu'on fait ou n'ont pas fait les entreprises qui, pour certaines, veulent préserver le consommateur. D'ailleurs, le consommateur commence à moins s'inquiéter du rebond de l'inflation, c'est ce que montre la dernière mise à jour des anticipations d'inflation du consommateur selon l'Université du Michigan. Je vais vous montrer ça, j'ai plein d'illustrations à vous montrer. Troisième partie, géopolitique oblige, tour d'horizon des baromètres du risque. Alors, quels sont les baromètres du risque? C'est quoi? C'est le pétrole, ce n'est pas que le pétrole. Un slide que je vous ai préparé là-dessus, où je fais un petit récap de ce qui me semble important à suivre pour mesurer au quotidien l'impact en termes de pression sur les actifs risqués de la géopolitique. Quatrième partie, un méga gros point, analyse technique, marché, action, S&P 500, où en étant sur le plan du sentiment, sur le plan quantitatif, sur le plan institutionnel, sur le plan de la liquidité partout, j'ai oublié quoi, quantitatif, je l'ai dit, bon, un point complet sur ce bon vieux S&P 500 qui, moi, vous connaissez mon point de vue, même si c'est volatile à court terme, même si on doit retester d'abord des supports, je pense que d'ici la fin de l'année, il peut rejoindre son record historique. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Est-il possible d'éviter la stagflation crainte par la Fed? C'est la question simple que je pose. Je pense que la réponse est oui, sauf bien sûr un pétrole à 200$. Clairement, pétrole à 200$, ça va être compliqué. Ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs que la Fed envisage elle-même une stagflation, c'est ce que vous allez voir à travers la mise à jour des projections macroéconomiques, pas réellement une stagflation, mais une croissance économique qui ralentit et une inflation en hausse, en tout cas qui s'éloigne de sa cible, et pourtant, elle envisage de baisser malgré tous les taux, probablement pour sauver le marché du travail. Alors, le plan, je vous l'ai donné dans l'introduction, je le remets ici à l'écrit. Vous avez donc les cinq parties qui vont se déployer, et nous attaquons tout de suite la première partie. La Fed déteste l'incertitude et craint la stagflation. Alors, pour le coup, là, Jérôme Powell ne se cache pas. D'ailleurs, si vous regardez, vous avez sous les yeux donc plusieurs informations, notamment la mise à jour des projections macroéconomiques et le communiqué de presse, un extrait du communiqué de presse de la Fed, où, voilà, alors, effectivement, pour certains, Jérôme Powell se cacherait derrière le fait qu'il y a énormément maintenant « a wide range of information », ok, très bien, donc le marché du travail, l'inflation et les anticipations d'inflation, ça en gros ça veut dire quel impact des tarifs douaniers, et bien sûr les développements internationaux, c'est sans le nommer le conflit entre l'Iran et Israël. Bon, en tout cas, dans la mise à jour des projections macroéconomiques, des choses assez intéressantes ont été proposées par la Fed et qui même pour certains ont pu être surprenantes. Alors, regardons ces projections macro ensemble. Vous avez ici, tout d'abord, la Réserve fédérale des États-Unis a revu significativement en baisse ses anticipations de croissance économique, représentées ici par le taux de croissance du PIB réel des États-Unis. La Fed a relevé légèrement ses anticipations de taux de chômage. Elle a relevé significativement ses anticipations d'inflation. Elle envisageait en fin d'année un PCE nominal à 2,7. Elle le voit désormais à 3%. Elle envisageait un PCE sous-jacent ou core à 2,8. Elle le voit à 3,1. Non mais, savez-vous où se situe actuellement le PCE? Il est mis à jour cette semaine, vous allez donc en entendre parler. Le PCE actuellement est à 2,1 en version nominale et 2,5 en version sous-jacente. 2,1, 2,5. Et la Fed nous dit comme ça que le marché passerait de 2,1 à 3 d'ici la fin d'année et de 2,5 à 3,1 pour la version sous-jacente. Révision en baisse de la croissance, révision hausse significative de l'inflation égale stagflation. Et regardez dans la partie basse du tableau, on y revient, c'est par ici. Pourtant, la Fed n'a pas touché à sa prévision concernant son propre taux d'intérêt, le taux d'intérêt des fonds fédéraux. Elle envisage toujours, il est actuellement à 4,5, de procéder à deux baisses de taux d'ici la fin de l'année. Probablement parce qu'elle juge qu'un éventuel rebond de l'inflation, moi je vous le dis tout de suite, je ne pense pas que nous reverrons un PCE à 3. Je commence à voir comment elle fait, je commence à comprendre son petit jeu. Jouer la prudence, se couvrir à travers des projections pessimistes pour voir venir, pour dire au cas où, ah on vous l'avait dit, mais si ça n'arrive pas, ben tant mieux. Quand on est pessimiste, si ça arrive, je vous l'avais dit, si ça n'arrive pas, ben tout le monde est content, donc on oublie la prévision pessimiste. Comprenez-vous bien ce positionnement? Elle le fait régulièrement. Naturellement, les tarifs douaniers auront un impact provisoire sur l'inflation, puisque une fois passé... Imaginons qu'une entreprise passe les 10% d'un coup, je parle du tarif douanier qui s'applique à tout le monde, mais entre-temps, les accords commerciaux peuvent arriver, donc voilà, ça se fait one shot. Bon, et encore, vous l'avez vu sur le CPI du mois de mai, les entreprises ne l'ont pas fait. Alors, nous verrons cette semaine avec le PCE. Mais en tout cas, dans la mise à jour des projections macro, ça, c'est donc assez significatif. La Fed nous dit dans son communiqué de presse qu'elle va tenir compte aussi des anticipations d'inflation. Alors, oui, les anticipations d'inflation, lorsqu'on regarde chez les industriels, à travers la composante inflation du PMI industriel, Les industriels, logiquement, s'inquiètent, c'est normal, ils sont dans l'attente. Alors, déjà concernés pour beaucoup par certains tarifs douaniers dans certains secteurs, d'autres en attente. Et les consommateurs notaient que il y a eu donc cette envolée des anticipations d'inflation du consommateur sans aucune logique, nettement supérieure à ce qui s'était passé au moment de la crise inflationniste, la crise Covid, mais qu'il y avait des raisons structurelles. Là, c'est vraiment parce que c'est le FUD, l'actualité, les news qui ont fait. Et d'ailleurs, le consommateur commence à moins s'inquiéter parce qu'on parle maintenant d'accords commerciaux. Donc tout ça est drivé par l'actualité, par du sentiment plus que par une réalité. Dans tous les cas, donc, effectivement, alors que l'inflation US-PCE que vous avez sous les yeux, qui est l'indice d'inflation favori de la Fed, flirtait avec la cible de la Fed, la cible qui est à 2%, eh bien, la Réserve fédérale, elle, et ça, ça a été vraiment significatif dans la mise à jour de ses projections macro, pense que ce PCE va pumper à 3% en version nominale et 3,1% encore. Mais en même temps, elle baissera les taux. Imaginez si l'inflation ne s'envole pas comme l'envisage la Fed. Aurons-nous plus que deux baisses de taux ? C'est là où finalement les choses peuvent devenir intéressantes. Alors justement, cette semaine, vous avez donc vendredi 27 juin la mise à jour justement de ce fameux indice des prix inflation PCE. Tout le monde s'inquiète de l'impact de la hausse du prix du pétrole. Déjà, le marché s'inquiète parce que la Fed elle-même dit que le PCE va s'envoler. Mais est-ce que cela repose sur quelque chose de concret au-delà du prix du pétrole ? Oui, bien sûr que si le pétrole va à 200$, on va morfler. Mais pour l'instant, il ne va pas à 200$. D'ailleurs, à chaque fois qu'on annonce qu'il va à 200$, il n'y va pas. Donc limite, j'aimerais bien voir énormément d'articles qu'il annonce, comme ça on n'ira pas, comme d'habitude. Bon, alors, qu'en est-il ? Déjà, première chose que je souhaite vous rappeler, effectivement, le pétrole a réintégré, alors le pétrole a fortement rebondi, hein, de 55 à quasiment 77$ selon le Brut US. En fait, il n'a fait que revenir dans un trading range en place depuis 3 ans. Les choses deviendraient problématiques en cas de dépassement des 80$. Bon, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bon, l'inflation PCE est actuellement à 2,1 en nominal, 2,5 en sous-jacent. Elle est mise à jour ce vendredi. Déjà, première information, le pétrole, en additionnant, regardez bien ce tableau, dans le PCE, en additionnant l'impact direct et indirect du prix du pétrole, je dis bien, en additionnant l'impact direct et indirect du prix du pétrole sur les mesures d'inflation, vous arrivez à un poids total de 10 à 11%. Donc ce n'est pas 50%, ce n'est même pas 30%, ce n'est même pas 20%, ce n'est même pas 15%. C'est 10. Donc, comprenez bien que même si le pétrole remonte à 90$, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, l'impact n'est pas que l'inflation double, d'accord ? Eu égard à son poids direct et indirect, dans le calcul de l'inflation, tout simplement. D'autre part, et encore une fois, l'inflation est essentiellement composée de services. Or, les services ne sont pas concernés directement par la guerre commerciale. Certains indirectement, mais très peu. D'ailleurs, lors de la première guerre commerciale, Trump 1-0, alors, bien sûr, le niveau d'incertitude est nettement plus élevé actuellement. Mais même dans cette première guerre commerciale, l'inflation des services n'avait pas rebondi. Je vous rappelle que dans le PCE qui est mis à jour cette semaine et que regarde la Fed, vous avez un quart d'immobilier, un cinquième de santé. L'immobilier se fiche de la guerre commerciale. La santé se fiche de la guerre commerciale, ou quasiment. Et vous avez la moitié de l'inflation qui repose sur ça. Et pour seulement 10% le pétrole. Alors oui, le prix du pétrole rebondit. Oui, Trueflation rebondit. Mais Trueflation rebondit parce que la composante transport rebondit. La composante transport rebondit parce que le prix du pétrole rebondit. Mais la composante, par exemple, immobilier, calme plat. C'est un quart du calcul, n'oubliez pas. Et 40% pour le CPI. Et regardez ici, les indicateurs d'inflation immobilière temps réel qui viennent de mettre d'être mis à jour. Ça baisse. Les nouveaux loyers, c'est négatif. Et tout ça va arriver dans le calcul de l'inflation et va exercer une pression baissière. Alors oui, oui, le prix du pétrole, bien sûr, va jouer. Oui, d'ailleurs, si vous prenez l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, ce vendredi 27 juin, qui concerne l'inflation du mois de mai, le PCE nominal devrait rebondir de 2,1 à 2,25 et le PCE core de 2,5 à 2,6. Mais notez d'ailleurs que même selon l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, le PCE core va rester à peu près stable ces deux prochains mois. Et qu'en version trimestrielle, nous sommes en version trimestrielle annualisée, nous sommes à la cible de la Fed. Regardez bien, en version trimestrielle annualisée, nous sommes déjà à la cible de la Fed. Donc, est-il possible d'éviter ce scénario de stagflation dont nous parle la Fed, tout en nous disant qu'elle baissera malgré tout deux fois ses taux? Oui, il est possible de l'éviter. Sauf si le baril va à $200. Mais imaginons un scénario où le pétrole reste dans ce range. Et derrière, toutes les autres composantes qui ne sont pas du tout concernées par la guerre commerciale ni par la géopolitique conservent leur trajectoire baissière, en particulier les services. Oui, il sera possible d'éviter un scénario d'une seconde vague d'inflation. En tout cas, il me semblait important de remettre en perspective ce que pèse réellement le pétrole d'un point de vue direct et indirect dans le calcul de cette inflation. Ce chiffre du vendredi 27 juin sera malgré tout très important parce qu'il porte sur les données comptables du mois de mai, les données des comptes des entreprises. Nous verrons comment elles se comportent. Et là, elles ont le choix. Soit elles décident d'épargner leurs actionnaires et d'impacter le consommateur, mais en prenant le risque de faire moins de volume et donc in fine d'impacter aussi l'actionnaire. Vous voyez, c'est cornélien tout ça. Soit elles absorbent ça dans leur marge. Ok, ça fait un peu moins de marge. Mais le consommateur étant préservé, ça maintient les volumes, ça maintient le chiffre d'affaires et on les retrouve des marges. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça dépend. Ce sont des choix microéconomiques. Des choix donc qui sont propres à chaque entreprise. En tout cas, ce chiffre du 27 juin sera important. Alors, les conditions. Alors, la Fed le dit. La Fed, de manière très étonnante, et ça a d'ailleurs quand même globalement rassuré le marché, malgré le fait qu'elle voit un rebond de l'inflation, elle nous dit qu'il y aura deux baisses de taux cette année. Donc ça, ce sont quand même des informations qui sont positives. Lorsque vous agrégez les anticipations à la fois des membres de la Fed et du marché, la prochaine baisse de taux de la Fed aura lieu le 17 septembre avec une probabilité de 68%. Et donc nous aurions une baisse de taux le 17 septembre et une baisse de taux le 10 décembre, soit deux baisses de taux. Peut-il y en avoir trois? Ça va dépendre de deux choses. Il faut que ça se calme sur le plan géopolitique et il faut des accords commerciaux entre les États-Unis, la Chine, les États-Unis, l'Union Européenne, les États-Unis, le Japon, les États-Unis, l'Inde, etc. C'est ça la clé. En tout cas, sauf dérapage hors de contrôle du prix de l'énergie, sauf interruption hors de contrôle des flux commerciaux en lien avec la guerre, nous devrions avoir nos deux baisses de taux. Ce qui sera un soutien aux actifs risqués en bourse. Géopolitique, un tour d'horizon des baromètres du risque. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup du pétrole. Ok, très bien. Effectivement, directement concerné par le Moyen-Orient, 25% de l'offre mondiale de pétrole transite par le détroit d'Ormuz, 20% de la production mondiale de pétrole se fait au proche au Moyen-Orient. L'Iran, elle, c'est que 2-2,5%. Je vous reparlerai de tout ça dans le Fast and Forex. Vous avez ici ce que j'estime être ma sélection, mon top 5 des baromètres du risque en lien avec le fait géopolitique. Bien sûr, le pétrole, le prix du pétrole et le gaz naturel, mais aussi l'indice S&P 500, pour laquelle en dernière partie de cette vidéo, je vais vous faire un point technique actualisé comme chaque semaine, qui reste si vous voulez, c'est le contrat à terme le plus négocié par la haute finance mondiale. N'oubliez pas les marchés actions du Moyen-Orient, en particulier la bourse de Tel Aviv, et ensuite en termes de market cap, celle d'Arabie Saoudite et d'Égypte. Tadawul, la bourse d'Arabie Saoudite étant la plus importante en termes de market cap. Simplement, je vous montre une chose. Regardez la tendance de la bourse de Tel Aviv. Pouvons quand même affirmer que, au regard de cette tendance, l'inquiétude est sous contrôle. Nouveau record historique de la bourse de Tel Aviv. D'ailleurs, vous avez beaucoup d'acteurs technologiques dans le TA35. Donc, moi, sur le plan géopolitique, au-delà du prix du pétrole, j'aurais une véritable inquiétude structurelle si les marchés actions de la région s'effondraient. C'est pourquoi je vous propose de les mettre sous haute surveillance. Et pour l'instant, ils ne s'effondrent pas. Vous avez là la bourse de Tel Aviv, Tadawul, l'Arabie Saoudite, la baisse avait commencé bien avant, en grande partie, parce que le pétrole était sous pression. D'ailleurs, notez que Tadawul revient dans une zone basse. Ça commence à être survendu. Il y a des divergences en Delhi. Bon. Le marché actions égyptien, lui, se situe plus ou moins en haut de sa tendance. Donc vous avez comme ça des baromètres du risque qui sont quand même importants, qui permettent de jauger le fait géopolitique du moment. Bien sûr, l'or, l'argent, les métaux précieux, tout ça, je vous en fais un suivi dans le Top Gun. Bien sûr, le dollar et Trueflation. Mais je voulais notamment vous inviter à suivre, notamment le week-end, ces bourses. Oui, vous n'êtes pas sans savoir, peut-être que si d'ailleurs, que la bourse de Tel Aviv, ou encore celle d'Arabie Saoudite ou celle d'Égypte, sont ouvertes le dimanche. Ce qui permet souvent d'avoir un indicateur avancé de l'ouverture en Europe et en Asie le lundi matin. Ça, c'est très intéressant à suivre. Et notamment ce week-end, où il va y avoir encore les prochains week-ends, il y aura beaucoup d'actualités. Donc là, au moins, je vous ai donné les codes TradingView pour suivre ces différents baromètres du risque. Alors, faisons maintenant, terminons par un point technique sur le S&P 500. Où en est-il selon sur différents aspects, l'aspect technique, l'aspect liquidité, l'aspect quantitatif, l'aspect sentiment. Tout d'abord, l'aspect sentiment est rassurant. Analyse contrarienne des marchés financiers. Le réservoir des vendeurs est encore très rempli, c'est même encore rempli. Alors que le S&P 500 monte, les particuliers doutent. Je m'inquiéterais si on était dans l'euphorie. Je m'inquiéterais si nous étions dans l'euphorie. Or, ce n'est pas le cas. Les indicateurs avancés de la liquidité, je vous remonte là le cas du Bitcoin, qui va représenter les actifs risqués en bourse, pareil, sont optimistes pour le début de l'été, la première partie de l'été. Vous avez ici, et je vous ai fait une grosse présentation à Lausanne sur ce sujet, la masse monétaire mondiale M2, avec différents décalages temporels. Cette liquidité, à la moindre bonne nouvelle, est un facteur de soutien. D'un point de vue quantitatif, nous ne sommes pas en zone de surachat extrême, malgré le fait que le S&P 500 n'est pas loin de son record historique. Vous n'avez que 60% des actions du S&P 500 qui se trouvent au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. La zone à risque, c'est lorsqu'on commence à en avoir entre 80 et 95%. Pour l'instant, sur cet aspect quantitatif, nous n'y sommes pas. La position nette institutionnelle est stabilisée. Il n'y a pas eu d'explosion des positions short. La position nette institutionnelle est stabilisée. Il n'y a pas eu d'explosion des positions short sur le contrat futur S&P 500. Ça aussi, nous pouvons en avoir une lecture plutôt rassurante. Alors, cette semaine va être sous l'influence de la diplomatie commerciale, de la géopolitique, de l'inflation US-PCE. Moi, comme je vous le dis depuis plusieurs semaines, j'estime que petit à petit, le S&P 500 va rejoindre son record historique, mais il le fait par étapes. Je vous avais expliqué ici que je restais haussier tant qu'on était au-dessus des 5700-5800, notamment au-dessus de ce gap, et de la moyenne mobile à 200 jours, ça a parfaitement fait support. Si on devait revenir tester, c'est pas grave. Ce serait une opportunité. En tout cas, le marché à action reste bullish au-dessus de ça. Là, il faut il faut le temps d'épurer une petite divergence en données journalières. En weekly, il y a énormément de marge encore pour se reprendre. Donc, oui, j'estime que dans le courant de l'été, je ne serais pas surpris que le S&P 500, même si d'abord il revient tester cette zone, soit en mesure de rejoindre les 6160 points. Voilà, chers amis, ainsi s'achève cette nouvelle édition du Top Gun. Donc cette semaine, inflation US-PCE, la géopolitique, la diplomatie commerciale. Et puis voilà, moi je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une excellente semaine.